Vous écoutez RTL.
Je ne suis pas mort.
La curiosité est un vilain défaut.
Je dors.
RTL.
Il est mort, le soleil.
C'est seul qu'on fait son deuil, car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents.
Je m'en irai dormir dans le paradis blanc.
La mort a ses raisons que notre raison ignore.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
La mort nous entoure. Hier, Halloween, aujourd'hui, la Toussaint et demain, la fête des morts. L'occasion de la regarder bien en face et d'en apprendre plus sur ses rituels dans le monde entier. Bonjour Guillaume Bailly.
Bonjour. Bonjour.
Ravie de vous retrouver au micro de la curiosité. Je rappelle que vous êtes croque-mort.
Oui.
Écrivain. Quelles sont les nouvelles tendances, tiens, en matière de mort?
Alors, il y a tout
et d'enterrement, bien sûr.
Pendant des années, on s'est contenté de l'inhumation et de la crémation. Et là, il y a toute une nouvelle tendance. On essaye la lyophilisation des défunts, l'humusation, l'aquamation.
Ah, bon, on va les déguster une par une.
Si j'ose dire, oui.
La lyophilisation des défunts, ça consiste en quoi?
Alors, c'est une équipe américaine qui travaille sur le fait de réduire des défunts en poudre, tout simplement, sans crémation, simplement en supprimant toutes les particules d'eau du corps humain.
Pour en faire quoi? Pour les mettre dans des sachets?
Pour les mettre dans des urnes, comme les centres de crémation, ou bien peut-être les remettre en terre, où elles se décomposeront de façon plus classique.
Donc il y a des tendances en matière d'enterrement, c'est ce qu'on découvre avec vous. Vous avez dit humusation.
C'est un mouvement qui revendique le droit de revenir à la terre, c'est-à-dire d'être enterré nu, sans cercueil, sans rien, directement en contact avec la terre.
Un enterrement écolo, quoi.
En quelque sorte, oui. Oui, il y a beaucoup.
Et vous avez dit aquamation aussi. Alors, c'est quoi? J'imagine qu'il y a de l'eau. Alors,
l'aquamation, c'est dissoudre tout simplement un corps dans de l'eau. Voilà, avec l'adjonction d'un petit produit chimique qui accélère la décomposition. Mais le corps se dissout dans l'eau, il ne reste plus que les os, je crois.
Guillaume Bailly, vous publiez le livre de la mort aux éditions de L'Opportun et l'on y découvre une incroyable coutume, c'est celle de la fiancée fantôme. On va raconter une histoire pour comprendre ce que c'est. Que se passe-t-il fin 2016 dans une province chinoise?
Alors, fin 2016 dans une province chinoise, une famille dont le fils unique qui est adoré est décédé, achète une fiancée pour l'enterrer avec.
Parce qu'il était célibataire, en fait?
Il était célibataire et dans la coutume chinoise, en fait, si les hommes sont enterrés en tant que célibataires, ils passent l'éternité dans l'au-delà en tant que célibataires. Donc, il y a la coutume qu'on appelle du Ming-un, je ne sais pas si je prononce bien, désolé pour nos amis chinois qui nous écoutent, qui consiste à enterrer l'homme célibataire avec une défunte, célibataire également de préférence,
oui,
pour qu'ils passent l'éternité ensemble, puisque s'ils sont enterrés ensemble, ils passeront l'éternité ensemble.
C'est joli d'une certaine façon, mais comment on trouve cette fiancée fantôme? Il y a des agents spécialisés,
C'est ça le problème, c'est interdit maintenant, et les agents spécialisés sont souvent proches de la mafia. Ce sont des trafiquants de corps, ou bien des fois il y a eu quelques affaires où, comme on ne trouvait pas de corps, on a été chercher une vivante et on l'a un petit peu poussée, on a un petit peu anticipé son trépas, en fait.
Alors, comment ça se passe là pour notre célibataire chinois? Donc, sa famille lui achète une célibataire défunte. Mm-hmm. Et c'est le jour de l'enterrement, grand moment. Comment ça se déroule?
Eh bien, il se trouve que la défunte ne l'était pas tant que ça, puisqu'elle s'est réveillée en pleine cérémonie.
Elle avait été droguée, c'est ça?
Elle avait été droguée. Alors, c'est une handicapée mentale qui était droguée, qui était dans les mains d'un réseau de la mafia chinoise, et qui, ils avaient un petit peu poussé le piston de sa seringue en souhaitant qu'elle fasse une overdose pour la vendre en tant que fiancée défunte, parce que c'est là qu'elle rapportait le plus.
Mais ça rapporte combien, un corps défunt comme ça, dans ce trafic des fiancés fantômes?
Alors, jusqu'à il y a quelques années, la police estimait que le corps en moyenne se vendait 2 700 €. Et là, depuis un petit moment, on assiste, il y a une augmentation de presque 25% sur ce trafic.
Comment se termine l'histoire pour le célibataire défunt? Tiens, il a été enterré seul, finalement?
Il a été enterré seul, puisque la jeune femme a pu être sauvée. Je crois qu'aujourd'hui, elle est dans une institution psychiatrique où on s'occupe d'elle. La famille est certainement très mécontente et le revendeur du corps est sous les barreaux.
Bon, il y a une morale à la fin de l'histoire, quand même.
Ouais, mais il y a d'autres histoires qui sont beaucoup moins bien finies que ça.
Dans un instant, on vous présente un mort-vivant. Il s'appelle Graham et il est britannique. A tout de suite, les curieux sur RTL.
Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était.
Vous écoutez RTL.
14h-15h.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
La mort dans tous ses états, c'est le thème de notre curiosité sur RTL avec l'écrivain et croque-mort Guillaume Bailly. Alors on va, comme promis, raconter une histoire britannique maintenant, en direction l'Angleterre, à la rencontre de Graham. Vous pouvez nous le présenter ?
Oui, Graham est un Anglais tout à fait normal, qui a une petite trentaine d'années, et qui un jour décide de mettre fin à ses jours.
D'accord.
Voilà. De quelle manière ?
Eh bien, il est dans sa baignoire, il lance le sèche-cheveux.
D'accord.
Jusque-là, il fait une Claude François.
Il fait, oui.
Mais il...
vous assumez.
Moi, l'humour noir, c'est moi aujourd'hui.
D'accord, ça marche.
Ça marche ou ça rate ?
Non, alors ça rate, puisque les plombs sautent, donc coup de peau, il en est quitte pour une belle châtaigne. Sauf que Graham, 8 mois plus tard, va voir son médecin pour lui expliquer qu'il est mort dans sa baignoire ce jour-là.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui permet d'affirmer une chose pareille ? Peut-être la folie ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Ce qu'on appelle le syndrome de Cotard. Alors le syndrome de Cotard, on ne sait pas trop ce que c'est, il y a très très peu de cas, mais c'est un syndrome qui fausse totalement la perception de sa propre mort. On est persuadé, comme Graham, soit d'être mort, ou bien qu'il y a d'autres cas qui sont aussi du syndrome de Cotard, où on est persuadé au contraire de ne pas pouvoir mourir.
Mais alors Graham, lui, il affirme qu'il se balade dans des limbes. Qu'est-ce qu'il décrit ? Ça veut dire quoi les limbes ? C'est quoi ?
En fait, les limbes, c'est le monde où nous vivons, sauf qu'il ne se sent plus à sa place. Pour lui, il est mort, il ne devrait pas être là. C'est comme si notre monde était devenu son purgatoire personnel. Et les seuls moments où Graham se sent à peu près à l'aise, c'est quand il se promène dans les cimetières. Enfin, il ne s'y sent pas à l'aise, il s'y sent moins mal que dans la vie de tous les jours.
Alors, vous racontez cette histoire, Guillaume Bailly, dans ce livre, le livre de la mort, anecdotes et coutumes drôles, étonnantes et effrayantes. C'est publié aux éditions de L'Opportun. Quand on est confronté à un homme comme ce Graham qui affirme qu'il est mort alors que manifestement il est toujours vivant, que fait la science ? Est-ce que la science a étudié son cas ?
Alors il y en a très peu. Dans le cas de Graham, les psychologues se sont avoués vaincus et l'ont envoyé chez des neurologues qui lui ont fait un scanner. Et là, il y a eu une drôle de surprise puisqu'on s'est rendu compte que l'électroencéphalogramme de Graham était le même que celui d'un patient plongé dans un coma profond. Que Graham vit et agit comme un être humain normal.
Est-ce qu'on peut imaginer aussi que Graham est un mythomane, qu'il a trouvé une bonne occasion de se faire connaître du grand public ? Moi je suis aseptique, vous c'est l'humour noir, moi je suis aseptique.
Non, pas du tout, puisque le scanner ne trompe pas. Graham a vraiment des lésions cérébrales et les quelques patients atteints du syndrome de Cotard ont vraiment un mal-être constaté.
Vous êtes croque-mort, Guillaume Bailly. Mm-hmm. Est-ce que dans votre carrière vous avez rencontré des morts qui se réveillent ou
non,
des morts
non,
vivants
non. Non, je rassure les gens, puisque c'est la grande hantise, il paraît, de se réveiller dans son cercueil. Ça n'existe pas en France, il y a tout un protocole. On vous met dans le cercueil une fois qu'on est sûr que vraiment vous êtes mort définitivement.
Mais est-ce que la mort, en fait, provoque... quand on frôle la mort, comme ça, il y a des gens qui ont ces expériences de mort imminente. Est-ce que la mort est à ce point fascinante et inquiétante qu'elle peut créer comme ça des syndromes comme le syndrome de Cotard ou des personnages qui sont complètement enfermés dans des histoires mortelles ?
En fait, ce sont deux choses très différentes. Les gens qui vivent des expériences de mort imminente ne sont pas du tout ceux qui subissent le syndrome de Cotard. Le syndrome de Cotard, c'est vraiment une atteinte neurologique que n'importe qui peut développer comme ça, sans qu'on sache aujourd'hui. Sur la recherche, on n'en sait pas beaucoup plus. Mmh. Tout ce qu'on sait, c'est que ce type de cas est quand même extrêmement rare.
Oui, on n'aimerait pas que ça nous arrive, c'est sûr, d'être coincé entre deux mondes.
On va essayer d'éviter. dans ce métier de croque-mort, vous avez reçu il y a quelques mois sur RTL, il y a des anecdotes qui sont parfois drôlissimes. Là, on est sur des cas un peu sombres, un peu effrayants. Qu'est-ce qui vous a fait le plus rire pendant votre carrière de croque-mort ?
Ouh là là, plein de choses.
Allumer le feu,
ça reste un grand classique, bien sûr. Puisque Thomas voulait de l'humour noir... I believe I can fly, je crois que je peux voler, passer aux obsèques d'un jeune homme qui s'est suicidé par défenestration. Ça, c'est bon.
Allumer le feu, la chanson de Johnny, choisie pour une crémation.
Choisie pour plusieurs crémations, c'est à la mode. En fait, les crématistes aujourd'hui dans les crématoriums, quand on leur dit on va faire original, on va passer allumer le feu, ils vous regardent avec un air blasé en disant c'est la troisième fois aujourd'hui. Conseil aux gens, passez à Highway to Hell de ACDC, ça sera plus original.
Allez, une autoroute pour l'enfer. Ouais, je sais pas si disque ce son souhaite à nos morts, je ne suis pas sûre.
En tout cas, on va raconter d'autres histoires de morts. C'est d'époque, hein. Demain, c'est la fête des morts. On va vous raconter le naufrage du Titanic. Alors souvent, on raconte le paquebot, l'iceberg, etc. Mais les 1525 morts, que sont-ils devenus? Réponse tout de suite sur RTL.
Votre matinée sur RTL. 9h, laissez-vous tenter, Yves Calvi.
Ciné, télé, expo et musique, durant une demi-heure, nous passons en revue toute l'actualité culturelle sur RTL.
Ça peut vous arriver à 9h30 avec Julien Courbet.
Nous rétablissons le dialogue avec celui ou celle qui vous pose problème, et le tout dans la bonne humeur.
11h à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Chaque jour, des invités prestigieux qui se dévoilent et s'amusent avec mes chroniqueurs.
Culture, service, humour, belle matinée sur RTL.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un enfant du siècle qui vient de mourir assassiné ce matin à New York. John Lennon avait 40 ans tout juste.
Ne me quitte pas.
Jacques Brel nous a quittés cette nuit. Coluche, l'amuseur qui faisait rire les Français, le roi de l'impertinence, vient de mourir sur la route de grâce.
Dans la curiosité, on vous raconte des fins d'histoire, des fins de vie, des morts célèbres et d'autres moins célèbres. Nous sommes avec l'auteur et croque-mort Guillaume Bailly. Et dans les histoires que vous racontez dans votre livre De la mort aux éditions de L'Opportun, il y a celle de James Dean et de sa voiture, sa Porsche dans laquelle il est mort. Quel a été son destin à cette caisse?
En fait, James Dean ne fait qu'une courte apparition au début, et sa voiture s'appelait Little Bastard. Elle lui avait été vendue par un garagiste qui a récupéré...
Ça veut dire petit salaud.
Petit bâtard, ouais.
Petit bâtard.
Et le garagiste qui lui avait vendu à James Dean l'a récupéré après. On a vendu des pièces détachées à deux clients à lui qui ont chacun eu un accident gravissime. La caisse de Little Bastard a été récupérée par la police américaine pour une opération de sécurité routière, de prévention. Et elle a causé des dizaines d'accidents dans tous les endroits où elle a été exposée. L'entrepôt où elle était stockée par la police a flambé. La seule chose qui restait, c'est Little Bastard, à tel point qu'en fait c'est la voiture qui a inspiré Stephen King pour son roman Christine. Ah. Voilà.
La mort qui colle à la peau des objets, ça vous dit quelque chose, Guillaume Bailly?
Oui, Little Bastard en est un exemple.
Ouais, c'est un bon exemple de malédiction. Alors, il y a une autre histoire qui est assez fascinante dans votre livre, parce que finalement, on croit tous la connaître. Mais non, c'est l'histoire du Titanic. Alors vous racontez forcément le début, 19 avril 1912. Alors là, on est 5 jours après le drame. Il y a eu 1525 morts, c'est ça le
1525,
le chiffre officiel. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui sont missionnés pour récupérer les corps?
Exactement. En fait, pour le Titanic, on parle du naufrage et puis après du procès, mais on ne parle jamais de l'expédition du Mackay Bennett, qui est un bateau qui a été affrété par la société, la maison mère du Titanic, pour aller récupérer le plus possible de corps de défunts sur place.
Alors, avec quel matériel part déjà cette expédition du Mackay Bennett?
Alors, en fait, le Mackay Bennett, c'est un navire câblier qui a été affrété en urgence avec l'aide d'une société de pompes funèbres qui s'appelle John Snow et qui existe toujours. Clin d'œil aux fans de Game of Thrones.
Vous un des héros de la série, c'est John Snow.
Voilà. Ça s'écrit pas pareil, il y a un H dans le cas de la société de pompes funèbres. Donc, elle a prêté du personnel, 40 thanatopracteurs, et l'église anglicane a également mandaté à un prêtre pour cette expédition.
Vous nous rappelez ce que c'est un thanatopracteur?
Alors, dans le livre, je précise, pour les Canadiens, c'est un embaumeur. Pour nous, on appelle ça un thanatopracteur, mais c'est exactement la même chose. Et c'est une personne qui procède à des soins très précis sur un corps pour en ralentir la décomposition, pour qu'il soit présentable vis-à-vis de la famille, en fait.
Ah oui, parce que quand ils arrivent sur place, que découvrent-ils, ces thanatopracteurs?
Beaucoup de corps qui flottent à la surface, puisqu'il faut savoir que si une grande partie des gens sont morts noyés, d'autres avaient des gilets de sauvetage et sont restés mourir de froid dans l'eau. L'eau était glaciale lors du naufrage du Titanic. Donc beaucoup sont morts de froid et leurs corps flottent à la surface, prisonniers de leurs gilets de sauvetage.
Et donc ils sont complètement conservés, c'est ça? Ils ne sont pas dégradés? Ils sont comme figés dans de la glace?
Alors certains sont recouverts d'une petite croûte de glace qui les a préservés, d'autres sont plus abîmés. Ils ont repêché, je crois, 306 corps. Ils faisaient une cérémonie d'obsèques en mer pour ceux qui ne pouvaient vraiment pas récupérer. Et en tout, c'est 190 corps qu'ils ont pu récupérer et ramener à terre.
Est-ce qu'il y a une inégalité sociale devant la mort dans cette histoire du Titanic ?
Ah oui, absolument, puisqu'en fait, les défunts de première classe, on pourrait dire, recevaient les meilleurs soins d'embaumement et étaient rapatriés dans des cercueils, tandis que les passagers de seconde, troisième classe et les membres de l'équipage recevaient des soins plus hâtifs, étaient cousus dans un sac et stockés dans un congélateur à fond de cale.
Et puis on a retrouvé un petit corps qui n'a pas été identifié, qu'ont fait les marins.
Alors ça a été un symbole, c'était un enfant inconnu. Lorsque la nouvelle s'est propagée d'une barque à l'autre et puis est arrivée au bateau, quand le petit corps est monté sur le bateau, en fait les marins étaient tous alignés sur le pont, ils lui ont fait une aide d'honneur. On a vu des vieux loups de mer essuyer une larme et ils se sont cotisés pour lui payer un monument qu'on peut toujours voir aujourd'hui à Halifax au Canada.
L'histoire d'une drôle de tradition dans un instant sur RTL, la photographie post-mortem, et puis on vous racontera aussi les histoires terribles qui se cachent dans nos plus jolis contes de fées. A tout de suite les curieux.
On est bien entre curieux sur RTL.
Vous écoutez RTL. RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
La mort et son métier, il en parle très bien, notre invité est croque-mort et écrivain, Guillaume Bailly. Sidonie, tout à l'heure, évoquait la question de la photographie post-mortem. Ça existe depuis longtemps, ça, ou c'est une mode récente ?
Non, c'est une mode qui s'est développée au 19e siècle, quasiment avec l'invention de la photographie.
Daguerreotype, c'est ça ?
Le daguerreotype, ouais. Voilà. Où les membres des familles faisaient prendre la pose à un défunt pour prendre une photo de famille avec lui une dernière fois.
Mais par exemple, quel genre de scène ?
Par exemple, on avait une mère en train de bercer son enfant ou un petit frère en train de jouer avec sa petite sœur. Les photographes déployaient tout un arsenal de trucs et astuces, des armatures en fer pour faire tenir les corps dans des positions particulières. On voyait des enfants jouer ensemble, sauf qu'un des deux enfants était mort et parfois c'est très très dur de savoir lequel.
Alors ça semble totalement dingue aujourd'hui et on a du mal à imaginer continuer de faire ça. Est-ce que ça a été interdit ? Est-ce qu'il y a un moment où on a cessé de faire ces photographies post-mortem ?
Non, on a cessé de le faire...
C'est mise en scène même, post-mortem.
Oui, on a cessé de le faire, lorsque l'appareil photo en fait, s'est démocratisé, puisque à l'époque, on faisait venir un photographe professionnel pour prendre ses clichés. Lorsque l'appareil photo s'est démocratisé dans les foyers, les gens faisaient eux-mêmes leurs photos et puis au bout d'un moment, on a complètement cessé cette coutume. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en Asie, par exemple, ça existe toujours. Certaines cultures asiatiques font toujours des photographies post-mortem. Alors, souvent, c'est plus soft. C'est la famille qui pose autour du défunt dans son cercueil. Mais moi, j'ai pu y assister en France. Il n'y a absolument aucune interdiction tant qu'il n'y a pas d'atteinte à l'image du défunt, quelque part.
Merci beaucoup, Guillaume Bailly. C'était un plaisir de vous avoir au micro de la curiosité. Je rappelle que vous publiez le livre de la mort. C'est aux éditions de L'Opportun. À bientôt.
Merci, à bientôt.
À bientôt, merci.
Vous écoutez RTL.